d'emploi. Mode d'emploi.
Salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi aujourd'hui, c'est avec AC1920, donc l'équipe historique. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Gilles au micro avec vous également, et puis bien sûr Claude à la technique. Ce soir, nous vous présentons quelques associations qui ont été présentes au Forum des associations le 4 septembre. On va commencer par...
Dans le 19e,
merci Ludo, exact. Nous allons commencer par un groupe, donc c'était une table qui était présente là-bas pour une association qui s'appelle ATTAC, donc que vous connaissez certainement bien. C'était la présentation des activités d'ATTAC 19-20 pour le coup. Et nous présenterons également trois autres personnes. Une première personne qui s'appelle Stéphane Yves qui prépare une conférence gesticulée. Ensuite, Sylvie Laporte qui fait un long métrage très politique pour le coup. Et bien sûr, une troisième personne qui va présenter les clowns qui interviennent dans les hôpitaux. Ce sera assez attractif pour le coup.
Oui, et en fin d'émission, on parlera de la réforme du chômage, bien sûr, dont on reparlera sur SPP, bien entendu, qui rentrera en vigueur le 1er octobre.
On écoute le premier son. Merci beaucoup, Lula.
Bonsoir à tous, nous sommes donc en direct de la fête des associations du 19e, une fête des associations particulière cette année puisque Covid oblige, nous sommes obligés de présenter un pass sanitaire et les conditions sanitaires. Alors là, je suis avec Gérard qui va nous parler du comité 19-20 d'ATTAC qui est présent cette année. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Le comité ATTAC 19-20 est présent régulièrement au fait des assos. C'est une bonne occasion pour nous, parfaite, pour rencontrer la population locale de nos arrondissements. Et ça permet comme ça de discuter avec les gens de passage, de voir ce qui les intéresse et surtout de leur parler de nos activités et d'essayer de nous faire connaître et surtout de faire connaître ce pourquoi on se bat. En fait, on est essentiellement une association militante.
D'accord. Ça fait combien de temps que le comité ATTAC 19-20 existe?
Il est très vieux parce que l'association nationale ATTAC date de 98 et le comité, alors c'était 20e au début, puis il y a eu quelques changements, s'est créé très très vite, donc c'est un comité qui a plus de 20 ans aujourd'hui.
D'accord, plus de 20 ans. Alors on connaît bien ATTAC, hein, bien sûr, hein, c'est l'association altermondialiste qui se battait pour la régulation de la finance à l'origine, donc qui a été plus moderne que les autres, puisqu'on pourrait dire qu'ils ont vu venir la crise, qui était pour la taxe Tobin, donc vraiment un grand chantier. Aujourd'hui, disons, en tant qu'association, en tant que section, on va dire, hein, d'arrondissement, comment vous appréhendez les activités d'ATTAC, les prises de position d'ATTAC vis-à-vis du public?
Alors, nous, en fait, notre travail militant, ça va être de faire partager localement les grandes orientations et les grandes campagnes d'ATTAC nationale. Voilà. C'est-à-dire que quand ATTAC nationale produit différents documents sur anciennement la taxe Tobin, puis la taxe sur les transactions financières, ou plus globalement sur une fiscalité juste, mais d'autres aspects, parce qu'évidemment, avec le temps, on a développé bien d'autres aspects, notamment tout l'aspect de la justice climatique, par exemple, dans lequel on peut retrouver la fiscalité, mais pas que, ce qui est beaucoup plus large. Nous, on va essayer de populariser ça, en fait, localement, soit à travers simplement de la présence locale, d'être sur les marchés, comme ça, à travers des ciné-débats, même si le Covid oblige, ces dernières années, ça a été beaucoup plus compliqué qu'auparavant d'organiser des séances de ciné, où on pouvait discuter tout ça. Et puis, on participe également à ce qu'on appelle le groupe Action. Donc, soit il est local, soit il est plus parisien, plus global. On développe des actions, parfois de désobéissance civile, histoire de faire un peu le choc, le buzz, et d'arriver à faire parler de nos thématiques.
Oui, donc pour les auditeurs, hein, le groupe Action, c'est par exemple aller repeindre la déventure de Bernard Arnault, je crois. Hein,
C'est
Action qui a fait beaucoup parler, hein, puisque c'était de la peinture, je le précise, à l'eau, qui est parti le lendemain. Mais, alors justement, en fait, il y a deux thèmes là en ce moment. Il semblerait que la dette, que la question quand même de l'effacement de la dette soit devenue aussi une question quand même qui est portée par ATTAC, qui dont le comité scientifique est dirigé par beaucoup d'économistes assez célèbres.
Oui, c'est ça. Oui, bah oui, parce que bon, la dette est une vieille question financière, hein, voilà quoi. Puisque on a beaucoup, ou du moins le gouvernement et les présidents dominants ont beaucoup utilisé la dette pour faire passer toute leur politique d'austérité. Et évidemment, cette question rebondit aujourd'hui avec ce qu'on appelle la dette Covid, hein, puisqu'on est sorti, a priori, hein, officiellement, du quoi qu'il en coûte. Il faut rembourser cette dette. Et donc, là aussi, on en profite pour faire passer des mesures qui tapent toujours sur les plus faibles, puisque c'est notamment l'assurance chômage. Hein, voilà, quoi. Et puis, c'est le retour de la réforme des retraites. Donc il est évidemment d'autant plus important pour nous de revenir là-dessus, sur l'actualité, sur qu'est-ce que c'est que la dette, voilà, qui la détient, à quoi elle sert, voilà quoi. Et puis on portait il y a quelque temps un audit citoyen de la dette avec d'autres associations, hein, dont le CADTM par exemple. Il nous semble tout à fait opportun de remettre ça en avant. Et par exemple sur la dette Covid, si on doit la rembourser, peut-être pas la rembourser en la fondant complètement comme c'est prévu aujourd'hui dans la CRDS, voilà, qui touche tout le monde, mais qui est loin d'être une cotisation ou un impôt, comme on veut, mais plutôt d'avoir un remboursement tenant compte des capacités contributives de chacun, tout simplement.
Alors aussi, hein, on voit quand même que Attac s'adapte en fait régulièrement aux circonstances mondiales. Alors là, moi, j'ai un tract sous le nez qui parle altermondialiste, donc solidaire des migrants et des réfugiés. Donc la question migratoire est devenue un problème central. Donc à Attac, vous vous en occupez?
Oui, Attac a aussi des activités, il y a aussi une commission migration qui intervient sur ces sujets-là. Et comme d'habitude à Attac, on essaie de raisonner sur la globalité. Donc il y a un problème spécifique des migrants, donc de pourquoi ils sont migrants, quelles sont les raisons pour lesquelles ils viennent, notamment en Europe. Mais il est important au-delà de ça et d'arriver tout simplement à les traiter humainement, ce qui est quand même la première des choses. Après, de comprendre globalement quelle est l'origine de la situation, comment l'économie mondiale aujourd'hui, de toute façon, creuse de plus en plus les inégalités entre pays, mais surtout entre les gens, au sein même des peuples, et pourquoi finalement on oblige, en vérité, c'est ça, ces gens-là à venir, alors soit pour des raisons climatiques, soit pour des raisons de guerre, évidemment, malheureusement, ou des raisons purement économiques, quoi. Voilà.
Et c'est ce qui nous amène à la justice climatique, en fait, puisque ça fait tout à fait partie du dossier des migrants, j'imagine.
Hein, oui, c'est ça. Enfin, voilà, il est clair que pour nous, il ne peut pas y avoir de justice climatique, de justice écologique, sans justice sociale, et qu'il faut absolument, si l'on veut réellement lutter contre ça, absolument lier les deux questions. Même si on pouvait rêver des solutions techniques ou autres pour régler le problème du réchauffement climatique, ça ne peut pas se faire en laissant des millions de personnes au bord de la route, enfin, qu'elles soient de chez nous ou d'ailleurs. Et comme c'est un problème mondial, il faut raisonner à la fois de façon mondiale et sans oublier personne.
Alors je vais poser une dernière question qui est difficile, celle-là, mais je la pose un peu, c'est entre vieux militants. Finalement, hein, depuis la création d'Attac, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'altermondialiste et qu'est-ce que c'est qu'être altermondialiste?
L'altermondialisme, alors c'est vrai, honnêtement, que c'est un terme peut-être qu'on entend un petit peu moins que Seattle ou au début de l'association Attac et tout ça. Mais l'altermondialisme, pour moi, c'est clairement ça. C'est à travers différentes situations, à travers différents thèmes, à travers différentes rencontres militantes, à travers différentes campagnes, parce qu'on fait le moins et moins une campagne tout seul, mais on essaie de le... c'est ça, c'est faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience de la globalité des problèmes, alors qui peuvent être différents, mais la source est souvent la même, de la globalité des problèmes, et qu'il faut les résoudre globalement également.
Merci, et donc bientôt peut-être sur FFP.
Merci, au revoir.
c'était en hommage à Mikis Theodorakis pour cette musique qui était dans Zorba le Grec. Donc Mikis Theodorakis qui est mort ce mois-ci, donc hommage à lui et à tous les, bien sûr condoléances à toute la famille, bien sûr à ses amis. Donc on reprend cette émission. Merci Claude pour ce passage de cette magnifique musique. On reprend cette émission pour parler maintenant de effectivement de Stéphane Yves qui était aux formes des associations le 4 septembre aussi et qui lui prépare une conférence gesticulée très politique pour le coup. On écoute.
Donc, je m'appelle Stéphane Yves donc et donc j'avais dit tout simplement que je suivais un chemin de vie qui n'était pas tracé, qui était vraiment de proche en proche, de pas par pas, sans avoir d'idée au départ de ce que je veux faire, en me disant tiens là il y a peut-être quelque chose qui peut m'indiquer une voie.
Mais t'es intermittent du spectacle.
J'étais intermittent du spectacle pendant 10 ans.
D'accord. Voilà. Comédien, c'est ça?
J'ai été comédien, j'ai été également chanteur pour différents chœurs, pour différentes petites formations, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait des grosses scènes. Hein. J'ai fait quand même, tu vois, le Stade de France, la Tour Eiffel avec Johnny Hallyday.
D'accord.
Voilà, j'étais dans les chœurs derrière, en playback, hein, en playback, on était en playback, c'était pas l'enregistrement en studio là. Et puis des scènes comme des églises aussi. Quand on fait du lyrique, on chante dans pas mal d'églises. Voilà, le chant lyrique c'est quelque chose qui est très, très impressionnant.
Et sur ces 10 ans, tu as connu des années de vaches maigres avec du chômage, des difficultés de trouver des emplois ou...
Alors non, pourquoi? Non. Parce que ma préoccupation n'a jamais été le problème du chômage ni de l'emploi. Pour moi, ne rien faire, c'est une parenthèse normale de la vie. Et on ne fait jamais rien d'ailleurs. On est là, moi pendant une grande période de ma vie, j'étais au RSA, tu vois. Parce que justement je voulais pas m'insérer de force, je dirais, dans le milieu du travail. Et après, en fait, j'ai été dans les métiers du spectacle de manière involontaire parce que j'étais pas spécialement parti pour faire de la scène. Mais il se trouve qu'à un moment, il y a une troupe qui s'appelle Les Colocs, qui maintenant est un petit peu malheureusement diluée, qui a joué sur scène pendant... Moi, j'ai joué pendant 10 ans avec eux, jusqu'à 16 fois par semaine. Mm-hmm. Ça, on a très, très bien marché, franchement. C'était vraiment une magnifique aventure humaine, de théâtre, etc. Moi, j'étais intermittent parce qu'en fait, à un moment, ils cherchaient une doublure pour un rôle, le rôle de Jean-Philippe. Et je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure-là. J'ai construit mon one-man show en parallèle, entre-temps, etc. Donc je me suis retrouvé intermittent du spectacle, mais je ne dirais pas malgré moi, parce que moi, j'étais pas contre, mais pas dans ma volonté, en tout cas. Ça s'est produit comme ça, quoi. Voilà.
D'accord.
Ce que j'aime bien, c'est que quand on a enregistré à la radio, comme ça, voilà, sur bande sonore, le temps elle devient très long, mais le silence est également quelque chose de très respectable. Et chercher ses idées aussi, je dirais très confrontant par rapport à la société actuelle. Où on vous demande tellement de choses, de bien vous présenter, d'avoir des bonnes notes à l'école quand on est jeune, d'avoir un boulot, etc. On demande d'avoir un emploi du temps bien fourni.
Normatif.
Ouais, ouais. Il faut bien le faire valoir, parce que si tu ne le fais pas valoir, il y a quand même un souci.
Ouais, ouais.
Et moi, je postule que justement, il y avait plutôt un vide à préserver au départ et qu'il fallait savoir le remplir petit à petit, au lieu de le remplir tellement vite qu'on le remplit mal, comme un panier qu'on remplit mal. Et après, on se retrouve à devoir se trimballer ce panier. Mm-hmm. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se rendent compte du poids de l'éducation, par exemple. À se dire, bon, ben oui, j'ai pas le temps de penser par moi-même, il faut que j'aille vite, il faut que j'aille à l'école, etc. Il faut que je sache répondre aux injonctions de formation de la société, qui sont d'abord l'école, et puis également, après, la formation professionnelle, parce qu'il faut bien avoir un boulot, apparemment, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, on se trouve avec un panier qui n'est pas forcément rempli avec ce qu'on avait envie de remplir, et qui devient parfois tellement lourd que ça se passe très mal.
Voilà, donc une obligation de reconversion, ce genre de choses.
Par exemple, et puis des reconversions qui se passent parfois après des chocs qui sont assez violents. Je parle des burn-out, je parle des cancers, je parle des ruptures aussi de divorce, les enfants qui font des fois éclater la famille, etc. Des chocs qui sont violents, qui sont perçus de manière très violente par l'individu.
Mm-hmm. Alors tu fais des conférences gesticulées, tu fais ça où et tu fais ça pour quelle raison?
Alors, je fais ça pour quelle raison, je fais ça où? Alors, pour quelle raison? Ben donc, aucune. Pour rester cohérent avec ce que je viens de dire avant. Je me suis retrouvé dans la conférence gesticulée un petit peu par hasard. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, un fil de vie qui m'a emmené là. Ma petite amie était belge à l'époque. Et on s'est quitté, bon, pour diverses raisons, peu importe. Mais avant qu'on se quitte, elle m'avait emmené voir une conférence gesticulée de Franck Lepage. Mmh. Alors moi, est-ce que je suis parti suivre cette formation de conférencier gesticulant parce que j'étais attaché à elle et que je voulais prolonger quelque chose? Ou est-ce que ça m'avait vraiment parlé sur le coup, sans le savoir vraiment? Je ne savais pas trop en fait, mais j'y suis allé. Et j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas non plus, un petit peu comme si j'allais, je sais pas, dans un autre pays où je vois des gens qui font des choses que je ne comprends pas du tout, je ne comprends pas pourquoi ils les font, etc. Et je me suis accroché, j'ai essayé de comprendre ce milieu-là. C'est le milieu de l'éducation populaire, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et petit à petit, j'ai construit une conférence gesticulée qui a pris une forme à un moment, mais qui n'était pas pour moi une forme valable, quoi. J'ai fait ça parce qu'il fallait produire quelque chose et pour chercher aussi un petit peu ma voix. Et là, j'en ai une qui est un peu plus aboutie, qui correspond à mon domaine de compétence, qui est la psychologie. Et le thème de la personnalité dans un sens un peu plus général. Et donc, je parle de la différence qu'il y a entre l'être affectif et l'être social. C'est deux personnes qui cohabitent au fond de nous et qui font une partie de nous-mêmes. Je ne vais pas développer plus parce que ça deviendrait un petit peu plus profond. Mais pour symboliser le fait qu'il y ait deux êtres qui cohabitent entre nous, en nous, qui ne sont pas forcément compatibles, je donne plusieurs exemples, dont un bon, là, qui me vient à l'idée, c'est au même moment, je peux avoir quelque chose au fond de moi qui me dit « je dois manger parce que j'ai faim ». Et au même moment, quelque chose qui me dit « je dois manger parce que c'est l'heure ». Et cette heure-là, ça ne correspond pas à celle à laquelle j'ai faim. Voilà. Autrement dit, je peux avoir faim à 11h et devoir manger à 12h30 pour des raisons sociales, pour des raisons...
professionnelles, éventuellement.
Exactement, professionnelles, etc. Ça crée des conflits. Ça crée des conflits et ces conflits ne sont pas faciles à piger. Ils nous tiraillent des fois entre un monde d'apparence auquel on doit répondre, parce que sinon on devient exclu, etc. Ça devient très difficile après de se frayer un chemin dans la société. Et un autre monde qui est un monde plus intérieur, plus intime.
De l'ordre du désir peut-être
ou du désir, de la pulsion et plein de choses qui sont immorales. Ça peut être quelque chose de sexuel, ça peut être des pulsions morbides, ça peut être... On retrouve quelque chose qui est très archaïque. Voilà, là chez l'être humain, qui est quelque chose qui est très animal également. Et ça peut être des cris, ça peut être l'expression de la colère, quelque chose de très émotionnel, très envahissant parfois, et qui n'a pas forcément de place dans la société. Donc avec lequel on se retrouve souvent très seul. Et donc ces deux êtres-là, ils cohabitent ensemble. Voilà. Et malheureusement, je trouve que les descriptions qui sont faites au niveau de la personnalité de ces deux êtres-là, par exemple, elle n'est pas bien faite. Voilà. Elle n'est pas bien théorisée, même si elle est théorisée en partie. Hein. Il y en a plein qui baignent dans le milieu de la psychologie, qui portent plusieurs théories. Mais moi, je ne suis pas satisfait par ça. Je trouve que ce n'est pas assez clair. Donc, je travaille là-dessus.
D'accord.
Voilà.
Et ça se passe à quel endroit, ce genre de choses? Tu t'es déjà présenté devant
les conférences, oui. Cette conférence gesticulée-là, je ne l'ai pas encore présentée. Ça s'appelle la psychologie du capitalisme.
D'accord.
Je postule qu'en fait, le capitalisme induit une construction de l'être social. Donc, cette fameuse code d'apparence, etc. En fait, il préconstruit quelque chose dans lequel toi, tu dois trouver une place. Et c'est cette préconstruction-là que je décris à travers des petits objets qui se paraissent qui ne sont que du papier mais qui sont très puissants. L'argent en fait partie, par exemple. L'argent est un système de codage très puissant, très très puissant. Il y en a d'autres, hein, j'en évoque quelques-uns. Je parle de la valeur aussi, j'essaie d'aborder des grands thèmes comme ça. La valeur, c'est quelque chose qui apparemment n'a pas beaucoup d'importance.
Mais donc c'est un mix entre psychologie et philosophie un petit peu, quoi.
Ouais, il y a un peu de philosophie, il y a de l'existentiel là-dedans, tu vois, de questions qu'on se pose. Et moi j'essaie de démêler un petit peu tout ça.
D'accord.
Et d'essayer de renvoyer des interrogations qui se font pas naturellement, quoi, parce que c'est toutes ces interrogations-là qui sont très personnelles, ou alors ça se fait chez le psy, ou alors ça se fait dans des milieux qui sont intimistes et tout. Et moi je pense que ça peut être également sujet d'un dialogue plus général. Voilà, ça peut être un dialogue de société en fait.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'un individu et comment trouver sa place, par exemple? Je ne sais pas comment se réaliser affectivement au travail, par exemple. Et ça, c'est la société le fait très mal. Au lieu de laisser l'individu développer quelque chose par lui-même dans le travail, ça pourrait être très rentable.
Alors, tu m'as dit également que tu étais en train de créer une entreprise, une SARL. En quoi consiste cette société, alors?
Alors, c'est une société, c'est une SARL, c'est un bar-resto-scène.
Oui.
Alors, bar et resto, ça va de pair, c'est assez courant comme concept, hein. C'est une restauration bistronomique près de la place d'Aligre. C'est un petit bar aussi avec des cocktails, etc. Et il y a une scène. Alors cette scène, elle va se partager avec des concerts et du stand-up, mais aussi de l'éducation populaire. Ça, c'est un mouvement qui me tient énormément à cœur. L'éducation populaire qui, malheureusement, est pas connue. Ce qui est quand même incroyable, parce que dans la vie, il y a trois grandes formations que tout individu a. Il y en a quatre, parce qu'il y en a une qui est vraiment implicite, mais il y a celle de l'école, il y a celle de la famille, il y a toute l'éducation des parents, il y a l'éducation professionnelle, c'est-à-dire comment faire son métier, etc. Et après, il y a une quatrième voie, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire en parlant de moi, ben je donne peut-être des idées à d'autres de trouver leur parcours de vie, d'arriver à trouver une philosophie, d'arriver à trouver un contact avec un lieu, donc le bar Restocène par exemple, qui serait un lieu de ressources.
Il
ouvrira en octobre. C'est au 99 rue de Charenton, dans le 12e, près du marché d'Aligre, à côté de la commune et d'un musée des associations. C'est un chouette lieu. Et j'aimerais que ça soit un lieu de ressources. Et ça sera peut-être un lieu de ressources pour les gens qui vont écouter ce message audio. Parce qu'on va essayer d'inviter des personnes qui vont parler de sujets qui malheureusement ne sont pas mis à l'ordre du jour, qui devraient pour moi passer à la télévision. La santé, la nutrition, qu'est-ce que je mange,
bien sûr.
De sujets sur, je sais pas, l'endométriose par exemple, pour la femme, bon ben il y a des gens qui savent pas ce que c'est, qui sont complètement démunis. Des sujets qui sont également propres à l'affect, sur je suis également psychologue clinicien de formation, donc je connais un petit peu des problématiques qui sont propres à l'individu et qui suscitent un gros problème d'expression dans la société, quoi. Parce que par exemple, supposons que je sois phobique, supposons que j'entende des voix, supposons que j'ai des idées un peu farfelues, etc. J'en parle à qui? Je fais comment? Je suis papa pour la première fois, ce qu'on appelle les primipères. Il y a des primipères qui tombent en dépression, leur femme est partie dans un autre monde avec le bébé, leur corps qui est complètement sans dessous, etc. Le bébé qui crie pendant toute la nuit, il y a des pères, ils tiennent pas le choc. Donc j'aimerais bien créer des groupes de parole, créer un lieu d'information également pour ces personnes-là. Donc c'est un lieu également de ressources, un lieu d'information avec des conférences, des débats, d'éducation populaire. L'éducation populaire, ça se fait également sous forme de jeu, avec un débat mouvant par exemple. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont à gauche et qui sont pour une idée, et les personnes à droite qui sont pour une idée qui est un peu contraire. Ben, ils vont essayer d'argumenter les uns les autres pour se convaincre. Voilà. Ça permet d'essayer de soi-même trouver ses propres arguments. Pourquoi je suis parti de tel camp, après tout, pourquoi je suis plutôt de la gauche ou plutôt de la droite, pourquoi je suis plutôt anti-vax ou plutôt passe-vax ou plutôt je sais pas trop quoi. Enfin, plutôt pour la mondialisation contre la mondialisation. C'est des idées générales, mais on peut avoir d'autres idées sur, par exemple, l'agriculture. On peut parler de l'agriculture, les circuits courts. Qu'est-ce que j'ai envie de manger, moi, dans la vie? Est-ce que j'ai envie, en achetant un paquet de pâtes, de donner de l'argent à une des quatre grandes multinationales qui sont logées en Suisse, qui dirigent le commerce du blé? Ou alors, est-ce que je décide de me donner mon argent à un mec qui travaille à 20 km de chez moi et qui produit lui-même du blé?
Bien sûr.
Voilà. Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je choisis de faire de ma vie? Et après, si je choisis de donner cet argent à ce mec-là qui travaille à 20 km de chez moi, est-ce que ça me plaît d'aller le voir? Est-ce que ça me plaît de parler avec lui et d'en parler à mes enfants? Comment j'éduque mes enfants en étant moi-même différent par rapport, par exemple, à ma manière de m'alimenter, etc. C'est tous ces sujets-là que j'aimerais bien développer.
D'accord.
Voilà, il y aura également un petit atelier itinérant. Qui j'aimerais bien réunir donc des personnes qui souffrent de troubles addictifs, qui ont ce qu'on appelle une personnalité borderline. J'aimerais bien les accueillir dans cet atelier itinérant avec d'autres personnes qui passeraient comme ça dans des cours à la volée. On pourrait faire comme ça de manière très ponctuelle, sans devoir s'engager, de manière très libre. Voilà, et puis ça permet de parler de plein de choses et de mettre en contact des personnes qui ont parfois des problématiques assez lourdes dans la société, c'est-à-dire qui leur posent vraiment des problèmes d'insertion. L'addiction, par exemple, c'est typiquement ça. Hein. La personne qui souffre d'addiction, elle subit sa propre addiction en général. Hein, parce que à l'adolescence, il y a plein de gens qui vont tester le cannabis, qui vont tester ça. C'est les expériences des adolescents. Ils ont besoin de... Ils ont un goût du risque, les adolescents. Ils ont besoin de sentir la vie, ils ont besoin de faire des choses. Et il y en a plein qui vont ne pas reproduire l'addiction, par exemple. Ils vont avoir fumé du cannabis, ils vont savoir que c'est festif, etc. Puis il y en a d'autres qui vont avoir une structure, malheureusement souvent cérébrale, qui est un peu plus fragilisée, qui effectivement n'ont pas la même capacité à s'insérer dans la société, qui ont besoin d'avoir d'autres conditions. et qui eux vont rester dans cette addiction-là. Et cette substance qui est un objet externe va malheureusement devenir quelque chose de plus en plus récurrent, avec entraînant toute une série de problèmes. Bon, on ne va pas développer ça maintenant, mais voilà. Et j'aimerais bien donc réunir différents types de populations pour que chacun parle de soi. Il y a du théâtre forum, il y a du théâtre de l'opprimé également qu'on pourrait faire. Voilà.
D'accord.
Oui, ça peut être également un sujet dans le monde de l'entreprise. J'arrive pas à trouver ma place, etc. Ben, je viens en parler sur scène et on crée une petite improvisation autour de ça.
Comme clown thérapie, genre de choses.
Exactement. Exactement. Parce que le théâtre, en fait, il symbolise la scène de la vie.
Bien sûr.
Là, par exemple, tous les deux, nous sommes sur une scène.
Absolument.
Voilà. On joue un rôle. Moi, je suis peut-être pas exactement maintenant comme je le serai en sortant de ce forum, etc. Idem pour toi. Tu tiens un micro, etc. Tu as peut-être un objectif, etc. Voilà. Puis je suis pas ton père, je suis pas ta mère. Je suis sûr que si j'étais ton père, ça serait différent. Par exemple, tu vivrais pas les mêmes choses, tu vois. Donc, on a en fait des stratégies qui sont pas forcément conscientes, mais qui existent. Et le théâtre aide un petit peu à déchiffrer nos stratégies parfois inconscientes. Pour dire, ah ben là, en fait, je me rends compte que dans cette situation-là, ben, effectivement, je marche comme ça. Je retrouve mes sensations dans mon corps que j'ai quand je suis dans cette situation-là. Donc, ça permet de décoder des fois des choses qu'on a dans la tête, des choses de vie, des situations avec des gens, etc.
D'accord. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup. Hein.
De rien.
Eh ben, merci bien.
Pour la flamme que tu as lue, au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume, dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes, au fond du dortoir chez le bain, pour la pétale anonyme.
C'était Thank You Satan, une chanson de Léo Ferré, chantée par Jolie Môme. Et nous allons reprendre cette émission. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires, émission d'AC 1920. Nous allons passer maintenant un son de Sylvie Laporte, qui est comédienne d'origine malgache et qui prépare un long métrage sur son île et sur le massacre des Malgaches, pour le coup. Qui est donc un film très politique. Elle a également avec des dessinateurs, elle avait sur un mur fait des dessins dans une école primaire qu'elle appelait le mur de la paix. Elle était représentée sur ce mur donc plusieurs figures comme Mandela par exemple. Et ensuite elle a appelé des comédiens pour jouer les personnages qui étaient sur ce mur. Et apparemment, ça a eu un succès terrible, terrible. Donc, elle prépare un long métrage sur son île, donc qui sera un film extrêmement politique pour le coup. Mais elle recherche bien sûr des fonds pour éventuellement pouvoir sortir ce film pour le coup.
Hein, donc, qui serait sur Madagascar en fait.
Qui serait sur Madagascar, bien sûr. Voilà, et surtout sur le massacre des Malgaches au siècle dernier.
En 1945,
non, c'était pas en 1945, c'était avant, en 1637, un truc comme ça, je sais plus la période exacte. Mais en tout cas, elle en parle dans le son là qu'on va passer. Et c'est une fille qui est connue de Fréquence Paris Pluriel parce qu'elle est venue à plusieurs reprises ici dans l'émission de Lucien, notre technicien préféré pour le coup, pas préféré mais voilà notre technicien. Et donc c'est une personne qui a présenté au Festival des Associations, au Forum des Associations, dans son stand, elle avait présenté un certain nombre d'images, de photos de Malgaches un petit peu terrorisés par la police, massacrés, etc. Donc des trucs un peu forts, un peu durs pour le coup. Et donc ce mur de la paix a eu un tel succès qu'elle s'est dit, tiens, je vais aller plus loin. J'ai fait un long métrage, mais là, bien sûr, elle a eu l'accord du CNC pour son, parce qu'elle a déjà fait le scénario. Elle a eu l'accord du CNC pour le coup, mais elle recherche bien sûr des personnes qui seraient des pépettes, quoi, de l'argent pour pouvoir faire des castings, voilà. Donc on écoute ce son et puis je vous en reparlerai plus tard. Merci. Bonjour, j'aimerais que tu présentes que tu te présentes ton stand. Et je veux savoir ce qu'est le Do Reader Company, qu'est-ce que c'est exactement?
Bonjour, je m'appelle Sylvie Laporte, je suis comédienne, auteur, compositeur, interprète. Je suis issue du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. C'est là où j'ai fait ma formation. Ensuite, j'ai travaillé comme intermittent du spectacle.
D'accord.
D'accord, au cinéma et au théâtre surtout. Joe Ryder Company, pourquoi ? Parce que je m'appelle Laporte, donc c'est The Door. D'ailleurs, vous avez là mon album qui s'appelle même The Door. Hein, c'est un album de musique qui s'appelle Urban Opus, c'est de musique soul, reggae, hip-hop, rap. Voilà. Et Ryder parce que la famille maternelle vient d'Angleterre. Ils s'appelaient Ryder.
D'accord.
Ryder, et je les aimais beaucoup. Ils étaient tous artistes. Et voilà, donc ça s'appelle Joe Ryder Company. Et du côté de mon papa, je suis malgache.
D'accord.
Il est malgache.
Double nationalité. Tu parles malgache, j'imagine aussi. Hein.
Un tout petit peu.
Un tout petit peu, d'accord.
Un tout petit peu.
D'accord.
Alefa, Madagascar.
D'accord.
Ils vont me comprendre.
D'accord. Alors, j'avais une question. Alors, apparemment, tu connaissais déjà Fréquence Paris Pluriel, puisque tu as participé déjà à des émissions. Tu peux me dire lesquelles ?
Ah oui, vraiment, merci Fréquence Paris Pluriel, surtout à mes amis de Dobout. Lucien, Madame Éléonore Bassop. Voilà, parce que vraiment, ils m'ont toujours soutenu dans toutes les créations que j'ai entreprises, ou alors dès qu'il y avait une projection, enfin, ils m'invitent énormément sur Fréquence Paris Pluriel. Vraiment, je remercie de bout. Et puis, on a été dernièrement, je suis passée aussi sur Fréquence Paris Pluriel la nuit dans un événement incroyable. Produit par la compagnie Un Excursus, dirigée par Barbara Boulet, parce que nous avons fait la lecture de 12 heures, enfin de 9 heures, des Misérables de Victor Hugo, adapté par Monsieur Pierre Vial, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, qui est mon ancien professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris.
D'accord.
Donc, on était beaucoup de ses anciens élèves. Il y avait Anne Alvaro, qui n'est pas dans la lecture. Et cette lecture a été enregistrée, et sur Paris, France Paris Pluriel, s'est passée toute la nuit. En fait, notre lecture est passée toute la nuit, parce qu'elle dure 9 heures.
D'accord.
Donc, comme c'est une lecture musicale, moi, j'interprète Fantine. Donc je meurs très vite, parce que dans le premier livre, Fantine meurt, la pauvresse, la misérable, la misérable, des plus misérables. Et ensuite, je m'occupe pendant toute la nuit d'accompagner toute la troupe au piano. Donc c'est moi qui en entends jouer au piano. Si jamais vous repassez sur France Paris Pluriel, ce très beau son qu'on a capté, parce que l'ingénieur du son a fait un très très bon travail, parce qu'on a en fait joué toute la nuit sur le parvis de la mairie du 14e arrondissement, avec Anne Alvaro, Gaël Baron, ils sont formidables comédiens, enfin, beaucoup d'anciens élèves du conservatoire. Voilà.
Et c'était quand cette expérience ?
Exactement, il y a un an, le 11 septembre en fait.
D'accord.
Le 11 septembre 2020.
D'accord.
Entre couvre-feu et confinement. Enfin, on est passé entre les gouttes.
Oui.
Et Pierre Véal, qui a maintenant 93 ans, était présent et restait toute la nuit. Voilà. Et ensuite, il y a eu un mixage son. Et c'est passé ensuite en lecture radiophonique sur Fréquence Paris Pluriel. C'était pas du direct. Hein.
Voilà. Bien sûr.
Mais la compagnie Un Excursus a le matériel pour repasser. C'est une prouesse, quoi. C'est une prouesse,
oui,
même
c'est clair.
D'adapter Les Misérables, parce que Pierre Vial voulait vraiment adapter l'intégralité des Misérables. Il ne voit pas Les Misérables en 2 heures, c'est pas possible.
Ah bah non, c'est compliqué.
Donc il a vraiment fait un travail. Ouais. Il a commencé à 87 ans ce travail. Et là, il en a 93, quoi. Donc j'espère que la Comédie Française pourra publié en fait son adaptation dans la collection de la Comédie Française. Voilà, c'est ma demande. D'accord. Voilà, je suis une révoltée. Et en parlant des Misérables, évidemment, je parle de mon pays, de Madagascar, où vous voyez ici dans mon stand des photos de notre misère, de la misère de Madagascar, de la pauvreté. En ce moment, il y a une sécheresse qui sévit dans le sud de Madagascar. Et c'est vraiment la famine. Ça ne date pas d'hier. Hein. Ça ne date pas d'hier. C'est vraiment la famine. Et vous voyez aussi donc, que je prépare donc, dans ce stand. Vous voyez que je prépare.
On voit des photos, effectivement. Qu'est-ce que s'est-il passé en 1947 ? Alors dites-moi un petit peu à Madagascar.
Voilà, en 1947... Les conditions de vie étaient effroyables. C'était Madagascar était encore une colonie française et c'était voilà, des conditions, on appelle ça l'indigénat, mais c'était l'esclavage. Et vous voyez des photos où on voit une personne, par exemple ici, on croirait un rescapé d'Auschwitz, quoi. Donc le peuple était dans cet état-là de corporel, dans cette souffrance-là, dans la famine, et en plus il s'échinait à cultiver le riz, hein, parce que nous avons beaucoup de rizières à Madagascar. Et l'État français a subitement demandé un impôt, une taxe sur le riz. Et là, tous les mouvements indépendantistes se sont révoltés. Et dans la nuit du 29 mars, dans l'ensemble de l'île, dans différents points, une île qui est quand même un tout petit peu plus grande que la France en superficie, c'est immense, hein, c'est pas la Martinique. Je souris là, hein, évidemment, pour mes amis les gars ultramarins. Mais et le peuple s'est révolté avec, vous voyez, des javelots.
Oui.
Hein,
oui.
Enfin, il s'est révolté pour reprendre le pays, pour l'indépendance.
Et ça a été une mare de sang, ils ont
assez. Ça a été un massacre. D'accord. Massacre. Parce qu'évidemment, on ne peut rien contre le feu.
Bien sûr.
Donc, l'armée française.
Ça veut dire que l'armée française a envoyé des troupes de Paris, enfin
Il y avait des soldats là-bas. Il y avait des soldats
là-bas.
Il y avait les tirailleurs sénégalais.
Ah,
c'est justement le paradoxe qui est aussi que je vais traiter dans le film à un moment. Mais c'est l'armée française et la police judiciaire française. Voilà. Et ça a été vraiment un massacre. Mais
combien de morts et de blessés, vous avez dit ?
Selon les sources officielles, on va dire 100 000.
Oh,
100 000 morts. Mais c'est une guerre qui a duré sur un temps de un an.
Oui.
Donc les insurgés sont cachés dans les bois. Et il y a eu aussi toutes les épidémies. Nous les ramassons toutes. Hein.
Donc dans les 100 000 morts, il y a eu les massacrés plus.
Selon d'autres sources, ça pourrait être compté à 200 ou 300 000 morts.
D'accord.
Vous voyez là des bras coupés.
Vous voyez,
ils se sont infectés. Peut-être ils sont morts après. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
D'accord.
Là-bas, il y a la peste noire, il y a le palu. Nous sommes très forts d'ailleurs en épidémiologie.
Très bien.
Auparavant,
oui, dis-moi.
J'aimerais finir la présentation de mon film.
D'accord.
Parce que je vous ai donné le contexte historique, qui est 1947. Mais le film va s'appeler Nom de code Rabé. C'est pas un QR code. Et Rabé, c'est Monsieur Jacques Rabé Mananjara. Rabé Mananjara, dont le nom signifie le seigneur favori du destin en malgache, et qui était un grand poète et qui était député à l'époque à l'Assemblée nationale française, qui demandait par toutes les voies diplomatiques l'allégeance et l'indépendance de Madagascar, mais qui a été rebouté et il est rentré au pays et il a été accusé à tort, c'est ce que je vais montrer dans le film, d'avoir fomenté cette insurrection. Donc il a été condamné après un procès à la va-vite, comme beaucoup de grands intellectuels, des médecins, beaucoup de monde. Il y a eu un procès à la va-vite, là-bas, à Madagascar, très loin, en cachette. Beaucoup ont été condamnés à mort. fusillé. Et lui a été condamné à perpétuité.
D'accord.
Aux travaux forcés à perpétuité. Et ce film traite en fait de l'arrestation du poète, de sa torture. On l'a torturé avec des méthodes que les Français avaient bien apprises en Indochine, dont ils avaient pris exemple sur les nazis. C'est vrai. Il a été torturé, emprisonné. Mon film raconte en fait la création d'un poème qui s'appelle Ansa, qui pour les Malgaches fait partie de l'anthologie, qui a été préfacée par François Mauriac. François Mauriac est également dans le film parce que dans mon film, c'est lui qui représente le français avec M. Alioune Diop, directeur et fondateur de la maison d'édition Présence Africaine, qui a participé à la libération du poète au bout de 10 ans quand même, après qu'il ait été déporté à Marseille. Et ce poète s'est effondré, il a été emprisonné. Et il a écrit une nuit un poème où le geôlier lui a fait une mauvaise farce en lui disant « Demain, toi, rabbé, tu vas être fusillé sur la place publique. » Donc la nuit...
qui a précédé ça, oui, j'imagine.
Il a cru qu'il allait mourir, donc il a écrit très rapidement un poème de 40 pages, qui s'appelle Ansa, qui est magnifique, et qui est le dialogue de mon film, qui est le tuteur de mon film.
D'accord.
Et c'est la bande off de mon film, documentaire. Oui, je suis à la recherche de financement, évidemment. Je préviens le CNC, je lance un appel à M. Charles Gassot, si jamais, je lance un appel aussi à M. Raoul Peck et à la production Velvet Film, parce que Raoul Peck, je cherche un réalisateur et un producteur, serait l'idéal, parce qu'après après le film I Am Not Your Negro, justement, il prend en voix off. Le texte de James Baldwin, c'est exactement le même principe en fait. Et haïtien, il doit comprendre vraiment la problématique de misère effroyable dans laquelle se trouve notre pays, et avoir de l'empathie. Voilà, et c'est un excellent réalisateur. Bon, là, c'est mes rêves.
Bien sûr.
Voilà, je vous confie mes rêves.
Bien sûr. Mais alors, en termes de financement, tu penses que ce film, tu aurais besoin de... Puisqu'on appelle pour des fonds, en fait, tu aurais besoin de combien pour démarrer le film, en fait, pour le film.
Bon, là, en tête, j'avais budgétisé, je dirais 800 000 euros.
800 000 euros, d'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de comédiens, donc il faut les payer.
Bien sûr.
Les techniciens, il faut les payer. Il faut des bons techniciens qui aiment la baroude aussi, qui aiment le cinéma de Jean Rouch quelque part. C'est-à-dire tourner la caméra à l'épaule pour aussi montrer l'actuel Madagascar.
Et peut-être... mouvement, surtout le mouvement, la course.
Et montrer aussi l'actuel Madagascar dans des conditions peut-être de tournage qui ne sont pas... qui seront à la route, quoi.
D'accord.
Sur la route, sur les routes. Je vais aussi filmer la beauté de Madagascar. Mais avant de filmer, de parler du tourisme, entre guillemets, je souris là, je voudrais vraiment qu'on fasse un devoir de mémoire, que je participe aussi. Il y en a déjà eu. Il y a déjà eu Tabataba, qui a été fait par Raymond Rajanabel. Il y a aussi dernièrement un autre film qui vient de sortir. Mais là, mon axe vision est vraiment différente, parce que j'intègre Rabbe Mananjara et ce poème. Donc c'est beaucoup plus poétique, et c'est un film d'arrêt d'essai, quoi.
D'accord.
Voilà.
Absolument. Je te remercie beaucoup.
Je vous en prie, merci. Michat.
Thank you. Donne-moi une île.
Oui. C'est à moi de parler, là ? Ah d'accord, très bien.
Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de Le Monde FM. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Ludo, merci c'est d'avoir repris avec brio.
Et c'est ça, c'est le problème quand on n'a pas son casque.
Voilà, mais parce que je pensais que la chanson allait passer complètement, mais il a coupé avant, c'était normal pour le coup.
Tu vois pas, on a un super spot lumineux là.
C'est exact. C'était Bernard Rayan. Voilà, si vous voulez écouter Bernard Rayan, faites-le. Très très grand chanteur. Voilà. Donc on va reprendre cette émission, Ludo, comme tu viens de le dire un instant. Bonsoir à toi. Sur l'assurance chômage, apparemment ça va.
Et oui, parce qu'effectivement l'actualité est chaude, puisque comme vous le savez, le 1er octobre, le nouveau décret d'assurance chômage, qui est exactement le même que le précédent, je précise, rentre en vigueur, n'est-ce pas, puisque notre cher président de la République a décrété que les arguments du Conseil d'État n'étaient pas valables. Oui, parce qu'il faut rappeler que le Conseil d'État, saisi en référé par les syndicats, avait annulé la précédente réforme du chômage pour des raisons conjoncturelles.
Retoqué sur la forme, a priori.
Alors, c'est pas sur la forme juridique, hein, c'est une question d'opportunité. C'est qu'il a considéré. Ta gueule ! Il a considéré que. Il a considéré que la réforme n'était pas valide, il n'y avait pas une raison d'opportunité, c'est-à-dire qu'en fait la crise faisait qu'elle n'était pas applicable en fait dans l'État. On ne pouvait pas réduire de 17% en moyenne les indemnités des chômeurs pour 1 million de personnes. Ce sont les calculs de l'UNEDIC, donc ça représente quelque chose de lourd en fait. Oui. Alors il a repassé son décret. Donc qui est exactement le même que prévu, dans cette idée que finalement la reprise depuis mai la reprise d'activité est effective, on est revenu au plein emploi, au niveau d'avant la crise du Covid. Or, il y a soi-disant une pénurie
de main d'œuvre
dans les secteurs de main d'œuvre, dans les secteurs en contrat court. Alors, moi, je voudrais revenir sur cet argument. Franchement, de quelle pénurie s'agit-il Donc, la DARES estime à 264 000 le manque d'emplois actuellement. C'est un chiffre qui est à peu près stable, qui est en augmentation ces derniers temps. 264 000 personnes, c'est à mettre en regard avec les 26,8 millions d'emplois. Ça représente 2,6% du nombre d'emplois total. C'est-à-dire, c'est ridicule. Ouais. Alors, évidemment, les économistes qui sont pas très bonne foi mettent en avant les annonces qu'on trouve sur le site de Pôle emploi. Les annonces sur le site de Pôle emploi, ça représente effectivement, actuellement, on est presque à 1 million d'offres d'emploi. Mais simplement, il faut attendre la fin du mois pour que Pôle emploi valide les offres qui sont effectivement vacantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé preneur. Et même ça, ce n'est pas d'une grande fiabilité parce qu'il faut que les Pôle emploi recontactent en fait les entreprises avant de les supprimer. Oui. Parce qu'un certain nombre sont supprimés. Donc le chiffre de 1 million est surévalué. Le chiffre de 264 000 est peut-être trop bas, puisqu'en fait l'enquête sur laquelle se base la DARES, qui est le service statistique du ministère du Travail, ne compte pas les entreprises en dessous de 10 salariés. Ce qui représente quand même il y a beaucoup de demandes de manœuvre pour les salariés. Donc le chiffre est peut-être un peu trop bas, mais quoi qu'il en soit, s'il est aussi bas, c'est qu'en réalité seulement 48% des entreprises, qui déclarent manquer de manœuvre font des démarches réelles et actives pour rechercher une personne. Ouais, donc, cette digression, c'est pour dire qu'en définitive, on peut monter un peu plus haut le chiffre, mais enfin, ça fait pas beaucoup plus, et ça représente vis-à-vis, alors non seulement de l'emploi total, donc comme j'ai dit, 2,6%, mais en plus, il y a énormément c'est un flux, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'offres qui trouvent preneurs, qui trouvent, vous voyez, oui, je crois que ça se monte à plusieurs millions les transactions en quelque sorte sur le marché du travail.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et dernier argument, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas un 2,6% du nombre d'emplois total, c'est pas un chiffre très élevé, comme vous l'avez vu, oui, mais qu'il existe plus bas. Et donc, vous savez, dans les pays dans lesquels le taux d'emploi vacant est très faible, la Grèce, l'Espagne, c'est-à-dire tous les pays qui ont un chômage de masse important. Et en réalité, il est beaucoup plus élevé dans les pays qui ont un taux de chômage faible. Donc cet argument, en fait, il est
valable.
Extrêmement douteux.
Oui, bien sûr.
Et il est d'autant plus douteux que les 10 emplois vacants sont en réalité des emplois qui tournent. Donc il y a une rotation. Hein, ce n'est pas des emplois qui sont de façon permanente pérennes. C'est qu'en réalité, régulièrement, ils se libèrent. Et donc, quel secteur les touche ? Bien entendu, les secteurs de l'hôtellerie,
le bâtiment,
de la construction et des services à la personne. C'est les trois là qui sortent en tête d'un soi-disant manque de main-d'œuvre. Et évidemment, c'est les emplois les plus pénibles, les plus mal rémunérés, et les moins qualifiés, bien entendu. Et donc, on va donc réduire l'indemnisation de un peu plus d'un million de personnes, de chômeurs, donc, hein, catégorie A, B, C, mais en réalité, celles qui sont concernées, c'est les B et les C, puisque d'un montant de 17%, pour soi-disant lutter contre les contrats courts que font signer les employeurs, avec cette logique-là, que finalement, avec ça, on va désinciter les chômeurs à prendre ce type d'emploi, et donc on va accentuer, en fait, le nombre d'emplois vacants, en fin de compte. C'est ça la logique. Donc, c'est un argument avec cette idée qu'à long terme, ben finalement, plus personne ne prendra ses contrats courts et les employeurs sont obligés de prendre des contrats longs. Et donc, la logique paraît absurde. Et donc, je pense, nous pensons, c'est juste une logique comptable, c'est pour faire des économies. Et les économies, on les fait sur le dos des chômeurs et qu'en plus, on les culpabilise. Et par contre, il peut quand même se trouver certaines personnes qui auront quand même besoin de travailler un ou deux jours. Voilà. Et donc, sur cette question, évidemment, on en reparlera.
Oui, on en reparlera, bien sûr, Ludo. De toute façon, nous sommes...
Il y aura bientôt une émission publique, hein, le 14 octobre.
Octobre, très bien. Merci beaucoup, Ludo. Merci à Claude pour la technique. Bisous à tous et à bientôt. Ciao.